Chapitre 11. Ce qu'elle avait espéré se réalisa. En quelques jours, elle fit la conquête de Madame de Courtomer et de la petite Adélaïde. Cette enfant était bien telle qu'elle l'avait tout de suite jugée, une bonne petite fille, intelligente, aussi heureusement douée du côté du cœur que du côté de l'esprit, facile, docile, aimant à plaire et surtout affamée de tendresse. Le lendemain de l'installation d'Hélène au château, elle avait eu un mot qui avait dit ce qu'elle était et ce qu'elle serait. Hélène venait d'entrer pour la réveiller, la faire lever et surveiller sa toilette, déjà tout habillée elle-même, bien entendu, et prête pour le travail de la journée. L'enfant ne dormait pas. La tête appuyée sur son bras, à demi soulevée, elle paraissait réfléchir, les yeux perdus dans le vague, mélancoliquement. « Il est temps de vous lever, » dit Hélène. « Oui, mademoiselle. » Mais au lieu de descendre de son lit, Adélaïde, gardant sa position, se mit à regarder Hélène. Puis, dans cette contemplation silencieuse, son visage prit une expression attristée avec quelque chose de doux et de tendre. Ses yeux se noyèrent dans une larme qui, sans tomber, roula entre les cils. « Qu'avez-vous, mon enfant ?» demanda doucement Hélène, surprise de cet attendrissement dont elle ne devinait pas la cause. « Je ne vous gronde pas. » « Ce n'est pas parce que vous me grondez que j'ai envie de pleurer, mademoiselle. Au contraire. »« Pourquoi alors? Voulez-vous me le dire ?»« C'est de vous voir en deuil qui me fait plaisir. »« Ce n'est peut-être pas plaisir qu'il faut dire, non, bien sûr, mais qui me touche, parce qu'il me semble qu'ainsi, ça nous rapproche, et que si je ne vous écoute pas tous les jours, vous sentirez bien pourquoi, n'est-ce pas, mademoiselle ?» Hélène la prit dans ses bras, et profondément touchée elle-même, elle l'embrassa, tandis que la petite fondait en larmes. Comment ne pas se prendre de sympathie et d'affection pour cette petite fille au cœur sensible et délicat? Chez Adélaïde, ce fut plus que la sympathie, une vraie tendresse, une passion d'enfant qui a besoin d'aimer et d'être aimé. Avec Madame de Courtomer, les choses, pour suivre notre route, arrivèrent au même résultat, et Hélène ne tarda pas à faire la conquête de la tante comme elle avait fait celle de la nièce. C'était réellement une excellente femme que la marquise, et qui rachetait son apparence hétéroclite par de sérieuses qualités de cœur et de caractère, bonne, charitable, généreuse, patiente, soucieuse d'obliger, et qui, sans ses travers nobiliaires poussés chez elle jusqu'à la manie, n'eût eu assurément que des amis. Malheureusement, ses travers étaient souvent gênants pour ceux qui l'entouraient, et quelquefois ils exaspéraient et fâchaient ceux qui n'étaient point naturellement indulgents pour les faiblesses humaines. Bien qu'elle fût la fille d'un simple industriel qui avait commencé ouvrier, ou plutôt parce qu'elle était la fille d'un ancien ouvrier, elle était plus Courtomer que son mari le marquis, qui cependant portait terriblement haut l'orgueil de sa race. Tandis que le mari était fier de sa naissance, naturellement, elle l'était savamment. Elle avait appris par cœur la généalogie des Courtomer et tout ce qui se rapportait à leur histoire, depuis Tancred de Hauteville, leur auteur, jusqu'à nos jours. Et avec preuve à l'appui, elle prétendait que les Courtomer étaient les seuls descendants du célèbre aventurier normand, ne reconnaissant pas ceux qui portent encore le nom de Hauteville, lesquels d'ailleurs ne reconnaissaient pas davantage les Courtomer. Elle était ferrée sur les 12 fils de Tancred, aussi bien ceux qui descendaient de sa première femme, dont elle prononçait le nom avec une indifférente impertinence, Moriel, que sur ceux qui étaient les enfants de la seconde, Frédésine, qu'elle appelait quelquefois entre intimes Frasinde, la mère du fondateur de sa maison précisément, le fameux Robert Guiscard, le conquérant des deux Siciles, qu'on n'avait point surnommé la Visée, disait-elle modestement, mais bien le sage, du vieux mot allemand « vise ». Utilisant les loisirs du premier précepteur de son fils, un abbé bon latiniste, elle lui avait fait traduire les 3 derniers livres du poème de Guillaume de Pouilly, « De rebus normanorum in Sicilia Apulia et Calabria Gestis » d'après la première édition in quarto publiée à Rouen chez Tirmois, dont elle avait pu se procurer à prix d'argent un exemplaire, lesquels racontent les conquêtes de Robert Guiscard. De même, elle était parvenue aussi à trouver le De Gestis Robarti Guiscardi de Gofridus à Malaterra, ainsi que l'histoire de l'Innormand avec la chronique de Robert Guiscard. Éditions originales et traductions, elle avait enfermé le tout dans un petit chartrier admirablement sculpté et orné d'émaux qui occupait la place d'honneur dans son salon et se présentait de telle sorte que les nouveaux venus ne pouvaient pas ne pas le voir et ne pas s'en approcher s'ils avaient du goût. Quand cela arrivait, ils étaient pris. « Notre reliquaire, » disait la marquise, « l'histoire de notre maison. » Et alors il fallait écouter, accepter cette histoire. Comment douter d'une origine qui s'appuyait sur les vers de Guillaume de Pouilly, sur Orderic Vital, Martin le Mégissier et bien d'autres autorités non moins fameuses? Comment ne pas croire qu'elle était l'héritière de Robert Guiscard, tout en étant cependant la fille de Jean-Baptiste Calipet? « Nous aussi, » disait-elle, en prenant une forme de plus en plus conique, circulaire sur le bas, pointue par le haut, « nous aussi nous aurions des droits à faire valoir sur le royaume des deux Siciles et supérieurs à ceux des Bourbons de Naples. Et cependant, nous n'en parlons pas. » Ah, mon Dieu, non, elle n'en parlait pas. Hélène avait cru à ses droits et même elle avait trouvé que ceux des Bourbons n'avaient pas grande valeur. À quoi bon contrarier cette excellente femme? La manie nobiliaire est une maladie comme une autre, qu'on doit traiter par la douceur. Alors, dès le troisième jour de son arrivée, on avait ouvert pour elle le fameux Chartrier, et on en avait tiré la traduction de Guillaume de Pouilly, puisque malheureusement elle ne savait pas le latin. Et Hélène avait pris plaisir à lire ce récit presque aussi amusant qu'un roman de chevalerie, et vrai, si invraisemblable qu'il puisse paraître. Quelle matière à conversation! Au déjeuner, au dîner, il n'était question que des gestes de Robert Guiscard et de ses 11 frères, autrement héroïques que les 4 fils Aymon, Guillaume Bras-de-Fer, Drogon, Humfred, Roger et les autres. Mais bientôt les heures des repas ne suffirent plus à Madame de Courtemer, et comme elle ne pouvait pas prendre sur celle du travail, elle continua ses interminables causeries pendant les heures de promenade. Il avait été décidé, lorsqu'on avait réglé l'emploi du temps d'Adélaïde, que tous les jours elle ferait avec son institutrice, aussitôt après son déjeuner, une promenade à pied de 2 heures. Rien n'eût été plus simple pour la marquise que de les accompagner, si elle avait pu marcher. Mais justement, la forme conique lui interdisait la marche. Elle pouvait rouler, se boulotter, si un pareil mot peut s'appliquer à une aussi noble personne, dans ses appartements et ses jardins, mais c'était tout. Quand elle avait simplement à se promener dans son parc, elle le faisait en voiture, un panier qu'elle emplissait entièrement. Il n'était pas facile de suivre Hélène et Adélaïde en panier. Cela couperait la conversation et on ne s'entendrait pas. Et puis, les voitures ne passaient pas dans tous les chemins du parc, qui, depuis assez longtemps déjà, n'était plus entretenu comme il l'avait été après le versement de sa dot et la mise en possession de son héritage paternel. Alors, elle avait accompli une action héroïque digne des faits et gestes de Drogon ou de Humfred. Tous les jours après déjeuner, elle s'était guindée sur une robuste ânesse aux reins vigoureux et aux jambes solides, et ainsi, carrément assise dans une selle à fauteuil, elle avait pu accompagner Hélène et continuer ses conversations, tandis qu'Adélaïde, qui semblait ne pas prendre grand intérêt au fait du conquérant de l'Italie, courait après les papillons. Mais ce n'était pas seulement l'orgueil du passé qui lui faisait ainsi rechercher une oreille complaisante. C'était aussi celui de l'avenir, car jamais elle ne rappelait une action glorieuse de ses ancêtres sans y mêler son fils en manière de conclusion. Du chef de notre famille, Guiscard n'a pas seulement le nom, il a aussi le courage. La décision, l'intrépidité, l'héroïsme. Et une fois qu'elle était ainsi partie, rien ne l'arrêtait plus. Il avait tout pour lui, ce jeune Guiscard, qui serait certainement devenu un héros comme ses ancêtres, si le malheur du temps présent ne défendait pas qu'il eût encore des héros. Et cela, Hélène l'entendait et l'écoutait plus complaisamment encore que les récits tirés de Guillaume de Pouilly, de Gaufridus ou d'Orderic Vital. N'était-elle pas touchante dans sa tendresse naïve, cette mère qui voyait héros un garçon qui n'était réellement qu'un être nul? Hélène avait été assez aimée par son père pour comprendre ces exagérations de la passion maternelle et même pour être indulgente à toutes ces aberrations. Aussi, au lieu d'y trouver un sujet de moquerie, y trouvait-elle de sérieuses raisons pour estimer cette excellente femme et pour s'attacher à elle chaque jour davantage. Ah, comme elle était pleine de reconnaissance pour le vieux Bonjean de l'avoir fait entrer dans cette maison! Quelle différence entre sa vie présente et celle de ces 6 derniers mois! Quelle différence entre l'avenir qui s'ouvrait devant elle et celui qu'elle avait craint! Elle lui avait écrit pour le remercier, et chaque soir elle ne se couchait jamais sans adresser un acte de gratitude à celui qui, après les épreuves dont elle avait été accablée, lui accordait enfin ce calme et ce bonheur. La mort de son père et les souffrances qu'elle et sa grand-mère avaient endurées pendant ce terrible hiver avaient durci son cœur et plus d'une fois lui avaient fait douter de la bonté de Dieu, car enfin, qu'avait-elle fait pour être si cruellement frappée? Mais cette heureuse existence, qui commençait et s'annonçait comme devoir se prolonger, la ramenait au sentiment religieux qui avait toujours été dans son cœur et dans son esprit. Oui, Dieu était bon, il avait été coupable dans son désespoir de douter de cette bonté. Si prolixe que fut la marquise dans ses récits, qui roulaient continuellement sur les deux mêmes sujets, sa maison et son fils, elle ne parlait pas toujours cependant, il y avait des moments où elle l'interrogeait. C'était ainsi qu'elle avait fait parler Hélène de sa vie passée et de sa famille, car elle comprenait que ces gens-là eussent aussi une famille. Puis, quand elle avait su ce qu'elle voulait savoir, il n'avait plus été question de Marguerite qui, bien entendu, ne présentait point le même intérêt que les Courtomère. Cependant, une dizaine de jours après l'arrivée d'Hélène au château, et alors que le goût que la marquise avait pris pour elle commençait à s'affirmer, elle était revenue à parler de la pauvre vieille mère Marguerite. « Si je pouvais rapprocher votre grand-mère de vous, seriez-vous heureuse, ma petite ?» demanda-t-elle à Hélène tout d'un coup. « Ah, madame !»« Eh bien, j'ai une idée qui rendra peut-être cela possible. Seulement, il faut que je la soumette à monsieur le marquis. » Elle disait toujours « monsieur le marquis » en parlant de son mari, comme elle disait « monsieur le comte » en parlant de son fils. « Et que je la fasse approuver par lui à son retour. Mais je ne veux pas attendre jusque-là pour vous la faire connaître. » Ce qui veut dire qu'à l'avance je suis à peu près certaine de cette approbation. Nous avons au bout du parc un petit pavillon qui sera libre à la Saint-Jean. Je veux l'offrir à votre grand-mère. Elle y sera tranquille, en bon air, à côté d'excellents voisins et où vous pourrez la voir tous les jours en faisant votre promenade. Ah, madame la marquise, comment vous remercier? En ne me remerciant pas.